Rome, Babington's Tea Room, 2 heures plus tard. Le salon de thé était situé place d'Espagne, juste au pied du grand escalier de la Trinité des Monts. Luca s'était installé à une petite table au fond de la salle, la même que celle où il avait l'habitude de s'asseoir lorsqu'il y venait avec Stella. L'établissement était, dans son genre, le plus vieux de Rome. Il avait été créé par 2 Anglaises, 120 ans plus tôt, à une époque où le thé n'était vendu que dans les pharmacies. La décoration n'avait guère changé depuis le 19e siècle et faisait de l'endroit une enclave anglaise en plein cœur de Rome, jouant sur le contraste entre le côté méditerranéen de la ville et le charme british du café. Les murs étaient recouverts de lambris et tapissés d'étagères en bois sombre qui accueillaient des dizaines de livres et une collection de théières anciennes. Luca avait ouvert le livre de Tom Boyd à une page vierge, juste après le montage de Madame Kaufmann. Il avait été touché par la mise en scène de ses souvenirs, par ses bouts de vie qui se succédaient. Comme si c'était un livre magique capable d'exercer les souhaits et de faire revivre le passé, Luca colla à son tour ses propres photos, les agrémentant de dessins et d'empreintes. Le dernier cliché le représentait sur un scooter avec Stella. Vacances romaines, 1981. Ils avaient 19 ans. À l'époque, elle lui avait écrit ces quelques mots. « Ne t'arrête jamais de m'aimer. » Il fixa le cliché pendant plusieurs minutes. À bientôt 50 ans, il avait eu une vie relativement riche qui lui avait apporté des satisfactions. Il avait voyagé, vécu de son art, connu le succès. Mais à bien y réfléchir, il n'avait rien connu de plus intense que cette magie des débuts, lorsque la vie était encore pleine de promesses et de sérénité. Luca referma le livre et colla sur la couverture une étiquette rouge sur laquelle il écrivit quelques mots. Avec son téléphone, il se connecta sur un site web de Book Crossing et y rédigea une courte note. Puis, profitant d'un moment où personne ne le regardait, il glissa le livre sur l'une des étagères entre un volume de Keats et un autre de Shelley. Luca sortit sur la place pour récupérer sa moto garée près de la file des taxis. Avec un tendeur, il accrocha son sac de voyage sur le porte-bagages et enfourcha la Ducati. Il remonta le long du parc de la Villa Borghese, contourna la Piazza del Popolo, traversa le Tibre et longea le fleuve jusqu'au quartier de Trastevere. Sans arrêter son moteur, il fit une halte devant le restaurant familial et releva la visière de son casque. Comme si elle l'attendait, sa mère était sortie sur le trottoir. Elle regarda son fils en espérant que parfois, les mots d'amour puissent se dire avec les yeux. Puis Luca accéléra pour prendre la route qui permettait de sortir de la ville. Il mit le cap sur Porto Venere, en se disant qu'il n'était peut-être pas trop tard. Los Angeles, vendredi 24 septembre, 7h du matin. En t-shirt et salopette, Milo était juché sur un escabeau. Un rouleau à la main, il repeignait à la chaux ferrée les murs de la cuisine. Carole ouvrit la porte de sa chambre pour venir le rejoindre.
« Déjà au boulot ?»
demanda-t-elle en bâillant. « Oui, je n'arrivais plus à dormir. » Elle examina le rendu de la peinture. « Tu ne bâcles pas ton travail, hein ?»« Tu plaisantes ? Depuis 3 jours, je travaille comme un esclave. » « Bon, c'est vrai que tu ne t'en tires pas trop mal, » admit-elle. « Tu me prépares un cappuccino, s'il te plaît ?» Milo s'exécuta tandis que Carole s'installait à la petite table ronde du salon. Elle se servit un bol de céréales, puis ouvrit son ordinateur portable pour consulter ses mails. Sa boîte aux lettres était pleine. Milo lui avait communiqué le listing complet de la communauté des lecteurs de Tom qui, depuis 3 ans, avait envoyé des messages à l'écrivain en passant par son site internet. Grâce à des mails groupés envoyés aux 4 coins du monde, elle avait pu alerter des milliers de lecteurs. Elle avait joué franc jeu, les prévenant de sa recherche d'un exemplaire inachevé du 2e tome de la trilogie des anges. Depuis, chaque matin, elle trouvait dans sa messagerie de nombreux mots d'encouragement. Mais l'email qu'elle avait devant les yeux était plus intéressant. « Viens voir ça !» lança-t-elle. Milo lui tendit sa tasse de café fumant et regarda par-dessus son épaule. Un internaute prétendait avoir repéré le fameux exemplaire sur un site de Book Crossing. Carole cliqua sur le lien indiqué et se retrouva effectivement sur la page web d'une association italienne qui, pour promouvoir la lecture, encourager ses membres à abandonner leurs livres dans des lieux publics pour les faire circuler vers d'autres personnes. Les règles du livre voyageur étaient simples. La personne qui souhaitait libérer un livre lui attribuait un code et l'enregistrait sur le site avant de le lâcher. Carol tapa « Tom Boyd » dans la zone de recherche pour obtenir la liste des livres de son ami susceptibles de se trouver dans la nature.
« C'est celui-là !» cria Milo en désignant une des photos.
Il colla son nez sur l'écran, mais Carol le poussa.
« Laisse-moi voir !»
Il n'y avait aucun doute possible. L'ouvrage avait bien la couverture en cuir bleu nuit, les étoiles dorées et les inscriptions en lettres gothiques qui formaient le titre du roman. D'un nouveau clic, Carol apprit que le livre avait été abandonné la veille dans le café Babington's Tea Room situé 23 Place d'Espagne à Rome. En ouvrant une autre page, elle accéda à l'intégralité des informations qu'avait souhaité donner Luca 66, le pseudonyme de l'homme qui avait relâché le roman. L'endroit exact où l'ouvrage avait été abandonné, une étagère au fond du café, ainsi que l'heure de la libération, 13h56, heure locale.
« Il faut qu'on parte pour Rome !» décida-t-elle.
« Ne te précipite pas !»
la tempéra Milo.
« Comment ça ? »
s'insurgea-t-elle.
« Tom compte sur nous. Tu l'as eu au téléphone hier soir. Il s'est remis à écrire, mais Billy risque encore sa vie. »
Milo grimaça.
« On va arriver trop tard. Ça fait déjà plusieurs heures que le livre a été abandonné.
Oui, mais ce n'est pas comme si le type l'avait laissé sur une chaise ou sur un banc. Il l'a planqué sur une étagère au milieu d'autres ouvrages. Il peut se passer des semaines avant que quelqu'un ne le repère. »
Elle regarda Milo et comprit qu'à force d'aller de désillusion en désillusion, celui-ci avait fini par perdre sa confiance.
« Tu fais ce que tu veux, mais moi j'y vais. »
Elle se connecta au site d'une compagnie aérienne. Il y avait un vol pour Rome à 11h40. En remplissant le formulaire, on lui demanda le nombre de passagers.
« 2 », indiqua Milo en baissant la tête.
Rome, Piazza di Spagna, le jour suivant. Au centre de la place, près de la monumentale fontaine de la Barcaccia, le groupe de touristes coréens buvait les paroles de son guide.
Pendant longtemps, la place d'Espagne fut considérée comme territoire espagnol. C'est ici que se trouve également le siège international de l'Ordre de Malte, qui jouit d'un statut bla 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 bla.
Les yeux plantés au fond de la fontaine, Isel Park, 17 ans, était hypnotisé par le bleu turquoise très clair de l'eau profonde de laquelle croupissaient les pièces de monnaie jetées par les touristes. Isel détestait être assimilé à ce cliché de touriste asiatique en groupe qui lui attirait parfois des moqueries. Elle ne se sentait pas à l'aise dans ce cérémonial, cette formule de voyage dépassée qui consistait à visiter une capitale européenne par jour et à attendre des heures que chacun fasse la même photo au même endroit. Elle avait les oreilles qui bourdonnaient. Elle était étourdie, elle tremblait. Surtout, elle étouffait au milieu de la masse. Fragile comme une brindille, elle se faufila pour s'en extraire et se réfugia dans le premier café qu'elle trouva sur son chemin. C'était le Babington's Tea Room au numéro 23 de la place d'Espagne. Rome, aéroport Fiumicino.
Bon, alors, il ouvre cette porte, oui ou merde ? S'écria Milo.
Debout dans la travée centrale de l'avion, il trépignait d'impatience. Le voyage avait été pénible. Après leur départ de Los Angeles, ils avaient d'abord fait escale à San Francisco, puis Francfort, avant de se poser enfin sur le sol italien. Il consulta sa montre, 12h30.
Je suis certain qu'on ne trouvera jamais ce livre, râla-t-il. On a fait tout ce trajet pour rien, et en plus, je crève la dalle. Tu as vu ce qu'ils nous ont servi à manger ? Au prix du billet, c'est se foutre de la gueule du... Arrête tes jérémiades, supplia Carol. Je n'en peux plus de t'entendre te plaindre pour un oui ou pour un non. Tu es saoulant à la fin.
Un murmure d'approbation se fit entendre dans la file. Enfin, la porte s'ouvrit, permettant aux passagers de débarquer. Milo dans son sillage, Carol descendit un escalator en contresens et se rua pour gagner la borne de taxi. Malheureusement, la file d'attente était impressionnante et la rotation des voitures s'effectuait avec une infinie lenteur.
« Je te l'avais bien dit !»
Elle ne prit même pas la peine de lui répondre. À la place, elle sortit sa carte de police,
remonta la file et présenta son sésame avec autorité à l'employé chargé d'affecter les voitures aux passagers.
American Police, we need a car right now. It's a matter of life or death,
lança-t-elle à la manière de l'inspecteur Harry.
C'est ridicule, ça ne marchera jamais,
pensa Milo en secouant la tête. Mais il avait tort. Le type haussa les épaules sans se poser 36 000 questions et, en moins de 10 secondes, ils prirent place à bord d'un taxi.
Place d'Espagne, indiqua Carole au chauffeur. Le Babington Steel Room. Et grouillez-vous, ajouta Milo.
Rome, Babington Steel Room. Isle Park s'était installé à une petite table au fond du salon de thé. La jeune Coréenne avait bu une grande tasse de thé et grignoté un muffin avec de la crème fouettée. La ville lui plaisait, mais elle aurait voulu pouvoir la visiter en prenant son temps pour flâner dans les rues, s'immerger dans une autre culture, parler avec les gens, s'asseoir à la terrasse ensoleillée d'un café sans avoir l'œil rivé à sa montre et ne pas se croire obligée de faire une photo toutes les 10 secondes sous la pression du groupe. En attendant, elle avait l'œil rivé non pas à sa montre, mais à l'écran de son téléphone portable. Toujours pas de message de Jimbo. S'il était 13h en Italie, il devait être 7h du matin à New York. Peut-être n'était-il pas encore réveillé. Oui, mais depuis 5 jours qu'il s'était quitté, il n'avait pas appelé une seule fois, ni répondu à ses dizaines de mails et de SMS. Comment cela était-il possible? Ils avaient pourtant vécu un mois de rêve à la New York University, où Jimbo était étudiant en cinéma. Isle avait passé la fin de l'été en voyage d'études dans la célèbre université new-yorkaise. Une période enchantée pendant laquelle elle avait découvert l'amour dans les bras de son petit ami américain. Mardi dernier, il l'avait raccompagnée à l'aéroport, où elle avait rejoint son groupe et il s'était promis de s'appeler tous les jours, de continuer à faire grandir leur amour malgré l'éloignement et de, peut-être, se revoir à Noël. Depuis cette belle promesse, Jimbo n'avait plus donné signe de vie et quelque chose s'était déchiré en elle. Elle posa 10 euros sur la table pour régler son addition. Cet endroit avait vraiment beaucoup de charme, avec ses boiseries et ses rayonnages de livres. Pour un peu, on se serait cru dans une bibliothèque. Elle se leva et ne put s'empêcher d'aller fureter dans les étagères. À la fac, elle étudiait la littérature anglaise et certains de ses auteurs fétiches étaient là. Jane Austen, Shelley, John Keats et... Elle fronça les sourcils en découvrant un ouvrage qui jurait au milieu des autres. Tom Boyd? Pas vraiment un poète du 19e siècle? Elle sortit le livre de son rayon et découvrit une étiquette de couleur rouge collée sur la couverture. Poussée par la curiosité, elle retourna à sa table en toute discrétion pour pouvoir examiner le livre plus attentivement. La vignette autocollante portait une étrange inscription. Bonjour. Je ne suis pas perdu. Je suis gratuit. Je ne suis pas un livre comme les autres. Je suis destiné à voyager et à parcourir le monde. Emportez-moi, lisez-moi et relâchez-moi à votre tour dans un lieu public. Isle était un peu sceptique. Elle décolla l'étiquette et parcourut le roman pour découvrir son étrange contenu et ses pages blanches que d'autres personnes s'étaient appropriées pour raconter à leur tour leur propre histoire. Quelque chose la toucha. Ce livre lui semblait avoir un pouvoir magnétique. L'étiquette proclamait qu'il était gratuit, mais elle hésitait encore à le mettre dans son sac. Rome, Babington Steel Room, 5 minutes plus tard.
C'est là-bas, clama Milo en pointant du doigt l'étagère au fond du salon de thé.
Les clients et les serveuses sursautèrent en avisant cet éléphant égaré dans un magasin de porcelaine. Il se rua vers le meuble et parcourut les rayonnages avec un tel emportement qu'une théière centenaire valsa dans les airs pour être rattrapée in extremis par Carole.
« Entre les livres de Keats et de Shelley, » lui précisa-t-elle.
Ça y est, il touchait au but. Jane Austen, Keats, Shelley, mais pas de livre de Tom.
« Fais chier !»
cria-t-il en balançant un poing vengeur dans le lambris boisé. Alors que Carole cherchait le roman sur une autre étagère, le responsable du magasin menaça d'appeler la police. Milo calma le jeu et s'excusa. Tout en parlant, il aperçut une table vide où, dans une assiette, un reste de muffin voisiné avec un pot de chantilly. Saisi d'un pressentiment, il s'approcha de la banquette et découvrit le post-it vermillon collé sur le bois verni. Il parcourut le texte et poussa un long soupir. « À 5 minutes près !» lança-t-il à Carole en agitant la petite étiquette rouge dans sa direction.